Good morning, Batman!
Good morning, amiga! Pour ce troisième épisode 100, le 100.3, j'ai pris ma voix de crooner pour vous souhaiter la bienvenue et pour remercier tous les participants des précédents podcasts et les participants du présent podcast et les participants du futur podcast. Car oui, il y aura un 100.4. J'espère qu'il n'y aura pas de 100.5 parce que ça commence à faire long. Hein. Bon, après, je sais que vous vous en réclamerez toujours, mais donc il n'y aura sûrement pas de 100.5, à moins que, sait-on jamais. Alors, pour cet épisode 100.3, ben, je tenais à faire une spéciale dédicace aux Pure Lemmers, avec qui, ben, j'ai débuté ma carrière, entre guillemets, amigaïste. Donc, je souhaitais ben, les nommer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont participé à ce podcast, et je souhaitais surtout leur dire un grand, grand merci. Donc, Slumman, Vic Edwins, Noor, et son frère Ossine, Mike Darfunk, Jedi, Ossine, je viens de le dire, Polymère, coucou Poly, Uno, Gucci, Ace, Migazix, Tonton Pascal, et Arnaud, Big Dan. J'en oublie peut-être, je ne crois pas, il me semble que j'ai cité tout le monde, enfin tous ceux qui ont participé avec nous en tant que Pure Lemmers, il y en a peut-être des autres hein, qui se sont greffés pour une partie avec nous. Donc ben, voilà, je souhaitais leur dédier ce podcast, et tout particulièrement à mon ami Ace, qui va ouvrir le bal de ce podcast 100.3. Donc je vous laisse en bonne compagnie avec Ace, hein, sur la musique d'ailleurs Ecolove, qu'il avait refait lui-même, sous en XM. Alors par contre je ne sais plus le nom du logiciel, c'est dommage, mais voilà, donc je vous laisse avec Ace et je vous retrouve à la fin de ce podcast.
Bonjour à tous, good morning Amiga Impact. Donc je m'appelle Ace, Amiga Alexis Mood. J'ai commencé sur Amiga par un Amiga 600 que j'ai reçu lors de mon brevet des collèges. Beau cadeau que toute ma famille a participé pour cette occasion. Donc, pourquoi j'avais choisi un Amiga? Tout simplement parce que des amis amstradistes, ataristes et PCistes m'avaient dit « S'il y a une machine à avoir, c'est l'Amiga. » Alors, j'ai suivi le conseil et j'ai bien fait. Je ne regrette rien. Donc, par contre, évidemment, quand j'ai eu 600, j'avais qu'une seule chose, le workbench. Alors pendant longtemps, alors je sais plus dire, peut-être 3 mois, je n'ai eu que le workbench. Donc je l'ai trifouillé dans tous les sens. Je passais mes soirées dessus. Oui, ça m'a permis de voir que la machine était vraiment bien. Mais voilà, je voyais tous mes potes avec des jeux et moi j'avais que le workbench. Mais bon, voilà, le système du coup je connaissais à donf. Et ça m'a permis en fait de rester sur Amiga au final, puisque je l'ai apprécié. Donc par la suite, donc mon 600 évoluant, j'ai au passage été victime de ce qu'on appelait du deal. À l'époque, en fait, il y avait des dealers de jeux vidéo qui vendaient des disquettes. Enfin, j'étais pas victime, mais disons que voilà, il n'y avait que comme ça que je pouvais avoir des jeux pas très chers. Alors j'achetais un bon jeu. Et puis les jeux un peu pourraves, ben voilà. Sinon, donc, petit à petit, ben, beaucoup joué à mon Amiga. Et donc, un jour, mon lecteur disquette a rendu l'âme. C'est là que je l'ai emmené au Darty. Je savais que mon lecteur disquette était foireux et que c'était facile à réparer. Mais bon, au Darty, ils m'ont dit, votre Amiga est complètement mort, il faut le changer. Et là, ils m'ont fait un bon de réduction. Et donc j'ai pris un 1200 pack dynamite. Donc super machine, j'étais content malgré tout, hein, puisque ça coûtait quand même un peu d'argent, mais voilà, j'ai pas perdu au change. Le 1200 était bien, bon bien qu'il était encore moins compatible avec les jeux Amiga 500, mais bon voilà quoi, avec la disquette Kickstart 1.3, on arrivait encore à faire passer 2-3 trucs de plus. C'est là que ben, les démos, la Nexus 7, tout ça, ça m'a passionné. Et petit à petit, je suis arrivé un petit peu, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans les démo-parties. Donc je suis allé à la Saturne, parce que pour commencer, j'ai choisi la plus grosse. Les gens que j'ai rencontrés, Criso, qui avait des longs cheveux, qui m'a vraiment impressionnant, et qui était formidable, il codait en Amos. Et vraiment, des super trucs, quoi. Et j'ai rencontré les Geeky Prods, avec qui je me suis éclaté, je suis resté chez eux, pendant quelques temps d'ailleurs, je crois, à la suite de la Saturne, et on a partagé bons moments, c'était vraiment super sympa. Ensuite, ben, petit à petit, j'ai refait des petites démos parties à droite à gauche, dont des grosses aussi, hein, comme la Volcanique, et à l'époque, je connaissais bien un MAF aussi, qui habitait juste à côté de chez moi, avec qui on partageait un petit peu le sens de la musique, sauf qu'il était vachement meilleur. Mais bon, voilà, c'est un peu la normalité. MAF avait un 1200, je me souviens aussi, et donc décoré à la peinture, magnifique, qu'il a vendu à Mikasix, un ami à moi, lorsqu'il est parti sur PC. Oh, le traître! Et sinon, en tout cas, j'ai rencontré aussi, au fil des parties, les Pure Lemos, mes amis actuels, mon groupe actuel. Donc, on a partagé vraiment de super moments avec les Nemers Barbuck, tout ça. Et en parallèle de tout ça, donc, j'ai découvert Morphos à la suite de mon passage donc sur 1200 PPC. Et donc, petit à petit, Pegasus 2, gentiment prêté par Batman aussi. Et donc, j'ai vraiment, je les remercie. À cette époque-là, j'avais vraiment pas les moyens d'avoir une machine comme celle-ci. Et c'était vraiment un cadeau formidable. Donc, maintenant, je suis toujours sur Morphos. Je fais partie aussi de l'association Métamorphos. J'essaie de porter des jeux pour on va dire aider la communauté, mais c'est pas grand chose, hein. C'est des petits jeux, on va dire, tout simples. Et puis j'espère vous revoir tous à un rassemblement, car vivement les prochains rassemblements. Je voulais passer aussi un petit coucou à tous mes amis suisses et à tous mes amis amigaïstes en général. Franchement, l'Amiga, c'est une bulle d'air, c'est un bonheur pour nous, tous les jours. Et ça permet d'éviter de penser à des choses, on va dire, trop négatives. Et donc, servons-nous-en, je pense que c'est le meilleur médicament contre la dépression et toutes ces choses-là. Donc, vive l'Amiga, vive les amitiés qu'on lit dans ces rassemblements, et à bientôt.
Alors je me présente, je suis Nicolas Gressard, plus connu sous le pseudo de Nifo dans la communauté Amiga, puis dans toutes les communautés d'ailleurs. Je suis consultant en informatique, et je fais essentiellement du développement de logiciels et de l'administration de serveurs d'hébergement ou serveurs d'entreprise. Dans le milieu des années 80, j'avais un Amstrad CPC, et un jour un copain m'a montré son Amiga 500, sur lequel il y avait la démo El Gato. C'était une vidéo d'un chat qui tournait à 360 degrés. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout fait pour pouvoir avoir un Amiga le plus vite possible. De 1987 à 1992, je crois, j'ai eu l'Amiga 500, puis l'Amiga 2000, que j'avais pas mal boosté, puis l'Amiga 1200. Que j'avais un peu boosté aussi, enfin qui s'était retrouvé avec au moins un disque dur et ce genre de choses. Et puis parallèlement à ça, j'ai toujours eu des PC. Enfin, dans la société de mon père, il y avait des PC, j'ai toujours bricolé dessus, il y en avait un à la maison aussi. Donc j'ai toujours été en parallèle sur PC et sur Amiga. Et puis un jour, les PC ont eu des cartes graphiques VGA, Un jour, les PC ont eu des cartes son. Un jour, le jeu Doom est arrivé sur PC. Et là, j'avoue que j'ai un petit peu délaissé mon Amiga à ce moment-là. Dans les années 2000, en traînant sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait une communauté Amiga qui existait toujours, et qu'il y avait même des sociétés qui fabriquaient du hardware pour l'Amiga. Je tombais complètement dénu, je pensais pas que c'était possible et que j'avais pu complètement ignorer ça pendant des années. J'ai même vu des posts qui parlaient de processeurs PowerPC dans des Amiga. Alors là, j'en croyais pas mes yeux. Je savais ce que c'était qu'un PowerPC, je savais qu'il y en avait dans les Mac, mais dans des Amiga, je voyais pas le rapport. Je savais que c'était pas compatible avec les 68000. Donc je me suis intéressé à tout ça. Et je me suis un peu engouffré dans cette communauté. Je me suis construit un Amiga 1200, justement, avec une carte PowerPC, avec une carte graphique, avec tout ce qu'on pouvait mettre dans un Amiga 1200 monté dans une tour. Et puis après, les Pegasus sont arrivés. Je me suis acheté une carte mère de Pegasus, puis une carte mère de Pegasus 2. Aujourd'hui, je n'ai plus ces machines. Cet Amiga et ces Pegasus parce que je passais plus assez de temps dessus. D'ailleurs, mon Pegasus 2 était tombé en panne. Enfin bon. Mais je continue à suivre l'activité de la communauté de temps en temps. Je continue à lire un petit peu Amiga Impact de temps en temps. Ma contribution à la communauté, c'est d'offrir l'hébergement au site Amiga Impact sur les serveurs de ma société. J'ai jamais beaucoup joué sur Amiga. J'ai vu défiler beaucoup de jeux sur l'écran de mon Amiga, de mes Amigas. Mais bon, j'ai commencé des jeux pour les essayer, pour voir comment c'était foutu, comment c'était programmé. Voilà. Mais je suis jamais allé très loin dans les jeux. Les jeux que j'ai terminés sont très rares. Pour moi, l'Amiga, c'était vraiment une machine de hacking. Et d'ailleurs, les ordinateurs en général à cette époque-là, pour moi, c'était vraiment des machines de hacking. J'adorais essayer de faire tout ce qu'il était possible de faire avec. Donc, que ce soit de la programmation, l'utilisation des logiciels existants, l'interfaçage avec des appareils extérieurs, ça, c'était vraiment mon truc. Et mon Amiga était connecté à peu près à tout ce qui existait. Et si j'étais pas très jeu, par contre, j'étais un très gros consommateur de démos. Ça m'a toujours passionné de voir jusqu'où étaient capables d'aller certains développeurs, dans quel retranchement ils étaient capables d'emmener la machine. Ça, vraiment, ça me fascinait. Ma démo préférée, de l'époque de l'Amiga classique. Moi, j'ai arrêté l'Amiga en 92, donc j'ai vu des démos d'après cette période-là, mais c'était sur du hardware qui n'était plus le hardware d'origine. Ma démo classique préférée, c'est Nine Fingers du groupe Spaceball. Voilà, je trouve que cette démo, c'est vraiment ce qu'on a fait de plus exceptionnel avec un Amiga de base qui tourne à 7 MHz avec 512K de mémoire. Ça m'avait vraiment laissé sur les fesses, je me rappelle.
Bonjour, je m'appelle Ulrich, j'ai découvert l'Amiga en 87. Bon, en fait, j'ai d'abord eu un Atari ST, mais mes potes bidouilleurs m'ont fait la morale. Et dès que le prix du 500 est redescendu au prix de l'Atari, j'ai swappé. Cette rencontre, ça m'a ouvert un nouveau monde de créativité. Et ça fait que, une fois que j'ai terminé mes études de droit des affaires, j'ai pris des études d'informatique. Chaque année, avec mon prêt étudiant, je partais à Cologne faire des emplettes, acheter un disque dur par-ci, un Amiga 2000 par-là. Au niveau activité, en dehors des jeux, j'ai commencé à bidouiller en C et en assembleur. En 94, j'ai pas compris comment Commodore pouvait être en faillite avec une telle communauté. J'ai continué à y croire, à écouter les annonces de retour de la plateforme. Et puis en juin 2000, j'ai vu un Unreal Tournament tourner sur un PC à pas cher. Et là, j'ai compris que c'était foutu. Monde de merde. J'ai donné mon 500, mon 2000, toutes mes docs. J'ai revendu mon 4060 au rabais pour me payer un PC biprocesseur. Depuis 1995, j'ai bossé comme développeur, principalement dans le domaine de l'automatisation de dépôts pétroliers. J'ai bossé sur Windows, du DOS embarqué, un peu de Linux, et rien de bien stimulant. Fin 2008, je suis tombé par hasard sur un article parlant de la présentation d'un Amiga NG sur un salon. Il s'agissait de la SAM, la Mini. Bah déjà, j'étais étonné qu'il se passe encore des choses côté Amiga, et encore plus, un Amiga Power PC existe avec Amiga OS dessus. Ça m'a rappelé plein de super souvenirs, et je me suis dit que plutôt que de lancer des jeux ou des mots sur WinUAE, utiliser une mini machine Power PC, ce serait vachement plus fun. Je me suis aussi dit que pour occuper mes temps libres, coder des petits trucs sur Amiga OS, ce serait sympa. Bref, j'ai replongé et j'ai commandé une SAM Red One. Alors si j'avais dû faire un rapport d'étonnement à l'époque, j'aurais noté qu'il existe une machine Power PC, mais ça reste un joujou anémique comparé à un PC. Alors ok, il y a OS 4.1 Power PC, mais au niveau support de matériel moderne, on est assez à la rue. Ensuite, au niveau outils de développement moderne, ça pourrait être pire, mais je me sens un peu perdu avec juste mon pins et mon couteau. Alors oui, je dis pins parce que le podcast est politiquement correct et on évite les gros mots, comme bit, même si elle est petite. Bon, dernier point d'étonnement, comment se fait-il qu'avec une communauté partie en peau de chagrin, on se retrouve quand même avec une fracture entre des bleus et des rouges? Et je parle ni d'Aros, ni des Ayatollahs du classique. Bref, je n'ai pas retrouvé la magie que j'avais connue, mais j'ai repris contact avec la communauté via des rassemblements, d'abord chez Uno, ensuite à l'Alchimie avec les AAA, et puis j'ai rencontré ce joyeux luron qui est Alex, à Balaman pour les intimes. Je suis allé le réveiller au sujet de son serveur FTP. Donc j'ai retrouvé plein de gens passionnés avec qui passer de bons moments, parfois tenter de faire bouger les choses, parfois juste refaire le monde autour d'un verre. Sur ma lancée, j'ai participé au programme de bêta-test du X1000. Ça a été une expérience intéressante, mais vu ce que j'en fais aujourd'hui, principalement décharger des piles boutons, c'était peut-être un chouïa excessif. Sinon, j'ai participé au rassemblement Ami Ouest, Ami Centre, Ami Est. C'est en fait des rassemblements en petits comités dont le but est d'enfermer ensemble des développeurs avec des bières et de leur faire produire des softs dans le plus pur style NG. C'est-à-dire bien commencé, mais pas totalement fini. Citons en vrac SmartDock, Better Workbench, Thunder Launcher et j'en oublie. Titillé par d'autres farfelus adeptes de pratiques d'outre-tombe, j'ai cherché sur le bon coin un 500, j'ai commandé une vampire. Et là j'avoue qu'avec le 500 j'ai retrouvé les sensations d'antan. Mais qu'est-ce que ça a vieilli? Et c'est quoi ce clavier? Il manque des touches, et il y en a, elles sont pas du tout au bon endroit. Et c'est quoi cette souris sans molette? Et c'est quoi la boule en dessous? Bon, j'ai appris à recaper une carte mère et une alim. À triturer le châssis d'un 500 pour faire surgir des connecteurs impromptus, HDMI, RJ45, SD card, compact flash. Bon, c'est intéressant, ça occupe les week-ends. Maintenant, j'ai un 500 que je peux mettre online sur internet. Mais sérieux, vous avez déjà essayé de surfer sur les sites modernes avec iBros? Moi, j'ai essayé. Bon, par contre, quel fun de faire un peu d'assembleur sur le 500. Ça aère vraiment la tête, ça fait du bien. Petit bémol, je n'arrive toujours pas à gagner les joutes dans Defender of the Crown. C'est quoi le truc? C'est quoi ce beans? Un autre intérêt du 500, c'est que quand après tu bootes le X1000, là tu te dis, waouh, c'est réactif, et c'est moderne, enfin, un peu plus moderne. Maintenant, la rubrique jeu préféré, c'est dur. Il y a tellement de jeux que j'ai adoré, comment choisir un seul? J'ai beaucoup joué à Syndicate, Opération Jupiter, Populous, Lemmings, Dune, Eye of the Beholder, UFO, Wings, Nitro. Et s'il faut en garder qu'un, je garde Speedball, le premier. Rien que pour la musique de David Whittaker. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ces Amiga? En dehors de dépenser mon immense fortune acquise malhonnêtement, je veux dire. En 2009, j'essaie de faire de la SAM mon ordi personnel principal. Mais le retard pris par la plateforme m'a vite fait abandonner. Au-delà de ça, le manque d'outils de développement moderne, c'est un frein qui, ajouté à l'évaporation de mon temps libre depuis que je suis plus étudiant, fait que l'ENG est allumé très épisodiquement. Pourtant, j'ai des projets qui traînent dans des cartons. J'ai un projet de toolkit C multiplateforme qui me permettent de développer de manière transparente pour OS 3, OS 4, Linux ou Windows ou autre. J'ai un projet d'atelier de conception de pilote USB, baptisé Pimp My USB. Merci Alex. Suite à mes expérimentations sur le pilotage de lance-roquette USB. D'ailleurs, il faudra que je regarde si j'ai bien publié le code. Des tutos appliquer la cybersécurité sur Amiga. Depuis 2019, j'ai lâchement abandonné le métier de développeur pour faire de la cybersécurité. Et même si nos plateformes sont larguées, elles restent de jolies cibles et elles peuvent être aussi utilisées pour l'offensif. Du coup, ça fait un bout de temps que j'ai noté de réaliser des tutos sur la recherche et l'exploitation de vulnérabilités depuis et vers des Amiga. Et si j'arrivais à intéresser suffisamment de monde pour pouvoir intégrer un CTF pour nos vieilles machines lors d'un rassemblement comme la chimie, ça, ce serait vraiment cool. Ce qui me manque le plus, c'est la motivation. Je sais qu'à chaque fois que je rentre de l'alchimie avec Alex, j'ai une méga motivation, j'ai une pêche d'enfer, plein d'idées. Et puis après, bah, quand je me retrouve tout seul, je me dis à quoi bon, et je fais autre chose. Je crois que se rencontrer, bosser en équipe, ça crée une émulation, ça donne envie d'avancer. Mais bon, on peut pas avoir une alchimie ou une Ami West chaque mois. Il faudra trouver, je sais pas, une espèce de rendez-vous périodique en ligne. Mais pas juste pour discuter, ou vraiment là le thème ce soit de bosser, donc une nuit ou un week-end sur Amiga, comme quand je bosse sur une compétition. On pourra bosser chacun dans son coin ou en équipe sur un projet, mais le but voilà, ce serait de s'auto-motiver pour avancer un peu et sortir des choses. Je sais qu'il y a des gens comme Uno, ils ont pas besoin de ça, hein, ils bossent comme des dingues, mais moi tout seul j'arrive pas. Je trouve pas ma motivation, je l'ai planqué quelque part, je sais plus où. Bon, en conclusion, l'Amiga pour moi, c'est une plateforme de passion, avec des gens passionnés et passionnants, qui sortent de l'énergie d'on ne sait où, pour faire vivre l'Amiga 26 ans après sa crise cardiaque. Je dis crise cardiaque, bon, j'aurais pu dire son décès, son enterrement, mais ça vit encore, bizarrement. En tout cas, à ceux qui trouvent l'énergie de faire encore plein de choses, merci à vous. Vous êtes mes héros.
Alors, bonjour à tous. Je me présente, Papiosaur. Je suis président de l'association Warm Up. Donc, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'environnement MorphOS ainsi que l'Amiga classique. Donc j'ai connu l'Amiga 500 lorsque j'étais au collège et j'adorais tous les jeux Team 17 notamment, mais également Swive et bien d'autres perles sur Amiga. Je l'ai quitté ensuite pour l'Amiga 1200, puis l'Amiga 4000 pour PC. Et ensuite, après mon service militaire, je suis allé voir le magasin APS à Marseille, et Adam m'avait présenté le Pegasus et MorphOS, et depuis ben, j'ai eu plein de machines qui tournent sur MorphOS, et là la dernière arrivée c'est la SAM 460EX, donc je remercie en passant Number One qui me l'a vendue. Et voilà, je remercie Batman pour ce 100e podcast et je le remercie de m'avoir proposé donc ce petit moment à partager. Donc longue vie à l'Amiga en général, donc sous toutes ses couleurs, ses utilisateurs, ses développeurs et ainsi que tous les revendeurs qui font vivre la machine. et pensez à soutenir tous les développeurs et aussi les revendeurs. Voilà. Merci à tous. Vive l'Amiga.
Bonjour à tous. Moi c'est Frédéric Boidron, alias Screech, pour ceux qui me connaissent sous ce nom-là sur Amiga Impact. J'ai 47 ans, donc si vous faites le calcul, je suis né en 74. Et on commence à avoir un certain âge, un peu tous. J'ai découvert le jeu vidéo chez un oncle qui avait Pong. Alors moi, je devais avoir peut-être 5 ans. Et il avait Pong sur la télé. Je trouvais ça magique de pouvoir déplacer un pixel sur l'écran, enfin un point. J'avais pas le droit d'y toucher. J'étais trop petit et je pense qu'on devait croire que j'allais tout péter, tout casser. Alors qu'en fait, j'étais plutôt quelqu'un qui faisait pas trop de dégâts de ce côté-là. Mais bon. J'étais trop petit et j'ai pas pu y jouer, j'étais super mais super frustré. J'ai découvert ensuite le vidéopack C52, je crois que c'est la version un peu européenne de l'Odyssée 2, avec des jeux qui à l'époque m'avaient vraiment marqué chez un copain, Stéphane, si tu m'écoutes. Il avait le jeu Duel que je trouvais génial. Je crois qu'il y a eu une borne d'arcade en fait sur le principe. C'était à deux joueurs uniquement et on était chacun un cow-boy d'un côté de l'écran. Il y avait des arbres au milieu de la route et je crois que dans la bonne arcade, il y avait des calèches qui passaient. Là, ça y était pas. Il fallait se tirer dessus, vraiment l'un contre l'autre. Monstre de l'espace. Alors ça, c'était un Space Invader avec Glouton et Voraz qui était en fait Pac-Man. Et puis, je trouvais ça génial. Il y avait une cartouche de programmation. On avait essayé, on n'a jamais réussi à sortir quoi que ce soit, parce que je me suis renseigné après depuis ce que c'est, en fait c'était de l'assembleur, donc imbitable pour l'époque, hein. Moi j'étais à l'école primaire à l'époque. Hein. Puis j'ai découvert le CPC 464 chez un autre copain, j'ai joué à Arrière Attaque sur ce 464 écran vert, et je trouvais ça génial, on jouait à deux, il y en a un qui dirigeait le vaisseau, enfin l'avion, l'autre qui jetait les bombes, c'était excellent, enfin je m'éclatais dessus. Et puis mon neveu qui a eu un 6128 QWERTY, ça va être en 86 tout ça, à peu près dans les mêmes moments, et je trouve ça génial, il y avait toute une compilation, la 6 Hit Pack, je me rappelle, avec Duet, je crois Scooby-Doo, Split Personalities, Jet Set Willy 2 qui m'avait marqué à l'époque, un premier jeu de plateforme, je découvrais les jeux de plateforme. C'est aussi là, à l'époque où j'ai rejoint mon père qui prenait des cours de basique dans mon école en plus, donc c'était rigolo, c'était après les cours, il n'y avait plus les autres enfants, et je retournais à l'école avec mon père et on faisait du basique sur des MO5, sauf que je me rappelle la première nuit, j'ai pas dormi de la nuit parce que je voyais ces lignes de code qui m'ont... Voilà, où je voyais plus que ça toute la nuit. C'est très drôle, ça a même failli me faire peur en fait ça, et puis en fait non, j'ai attrapé la fièvre, et j'ai réclamé depuis cet âge-là, donc je sais pas, je devais être en... à l'époque, je devais être en CM2 ou un truc comme ça, quand j'étais à ces cours-là, et depuis cette époque-là, j'ai toujours réclamé un ordinateur, et on m'a dit ok, parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens, parce que ça revenait cher à l'époque à l'ordinateur, hein, faut pas l'oublier. Ok, le jour où tu auras ton brevet des collèges. Donc on était en CM2, c'était une grosse carotte, mais puis elle était très loin. C'était pas, quand on est en CM2 et que la carotte est en troisième, ça paraît extrêmement long. Et ça a été très très long. Entre temps, bon, j'ai quand même eu droit à une Atari 2600 avec Dig Dug, Obélix, Snoopy, le Baron Rouge. Je me rappelle celui-là, il m'avait impressionné au niveau graphique. Maintenant, ça paraît horrible si vous regardez des screenshots ou une vidéo de Snoopy and the Red Baron sur Atari 2600. Maintenant, c'est horrible. Mais à l'époque, moi, j'avais trouvé ça fantastique. Il y avait des sons... c'était du Jean-Michel Jarre. Alors, maintenant, on écoute, c'est fait... Quand ça vole, ça fait bizarre, mais... Voilà, et puis... je l'ai bien eu. J'ai eu mon brevet des collèges. Et en fait, mes parents étaient sympas parce que je l'ai eu même dès Noël l'année du brevet, donc un petit peu avant, donc c'était ça va être le Noël 89. Et j'avais le choix entre un 6128 écran vert ou 464 couleurs, donc en Amstrad. J'ai failli prendre le 464 couleur. Heureusement, j'ai un de mes oncles qui m'a dit « Fais surtout pas ça. Écran vert, c'est pas grave, mais il faut au moins que t'aies le lecteur de disquette. » Heureusement. Voilà, puis là, j'ai découvert les joies du piratage. Par hasard, chez mon neveu. Je regarde un peu les disquettes qui étaient livrées avec l'Amstrad et il y avait le Diskit 3, je me rappelle. Avec, c'est sur le CPM, hein, qui était le système d'exploitation qui était livré avec. Et il y avait la commande copie. Et j'essaye de copier justement la fameuse disquette de mon neveu qu'il avait déjà depuis quelques années là, avec donc Jet Set Willy 2, Duet, Split Personalities et tout ça, Scooby-Doo. Et je copie, mais ça marche, j'ai une copie moi-même. Et je trouvais ça, mais c'était un truc géant, quoi. Donc, ben voilà, j'étais un gros pirate pendant quelques années. Voilà, j'ai piraté pendant des années avec des copains. On avait fait tout un réseau sur Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, où on se passait les disquettes, puis c'était avec des cartons à chaussures. Sauf qu'à l'époque, les disquettes, c'était 27 francs la disquette, 27 à 30 francs. Les disquettes de 178K par face, je sais pas si vous voyez. On arrivait des fois à mettre 2-3 jeux dessus, même des fois un peu plus, mais c'était vraiment des petits jeux. Alors quand il y avait des jeux qui faisaient une phase, voire deux phases de disquettes, ça revenait cher le jeu, hein. Ça revenait presque aussi cher que l'acheter en magasin ou de le prendre d'occasion. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai commencé à acheter des magazines, puis j'avais découvert l'Atari ST, l'Amiga, en plus j'avais un cousin qui avait un Atari ST, oh la claque, quand j'ai vu son Atari ST avec Dynamite Ducks, avec les petits canards, hein, ou Toubine, les gamins qui descendent avec des pneus de tracteur, je trouvais ça génial. Puis Wonder Boy, c'est Super Wonder Boy in Monsterland, je crois. C'est pareil, j'avais trouvé ça, mais fantastique, et je rêvais de ça. Et du coup, je voulais absolument m'acheter un Atari ST. Et pareil, pendant plusieurs années, parce que bah, ça coûtait cher, hein, à cette époque-là. Et puis après, j'étais mono dans des colos. Ouais, et puis j'ai forcément, à un moment donné, on a un salaire. Mon premier salaire, bah, je l'ai claqué. J'allais claquer dans un Atari ST. Et heureusement, je m'étais acheté plein de magazines à l'époque, Joystick, Génération 4, Tilt. Je m'étais abonné à Tilt d'ailleurs à ce moment-là. Et là, je voyais tous les jeux partout, ils disaient que bah, l'Amiga était toujours mieux. Mais sauf que j'avais jamais eu d'Amiga, donc j'en avais vu, je crois, au champ, mais jamais tourné, à part la main, ils mettaient toujours la main, mais c'est tout. Alors que l'Atari ST, je connaissais, donc je savais que c'était bien. Mais les magazines disaient que c'était mieux. Bon, bah, allez, chiche, on prend l'Amiga. Puis le problème, je me disais, bah, je connais personne, donc je vais pas pouvoir pirater, c'est même pas possible. Bon, bah, tant pis, bah, je piraterai pas. C'est pas grave. Et puis, du coup, c'est pour mes... C'était donc en 92 que j'ai acheté mon Amiga 500, édition kick-off, édition PSG, avec tout l'attirail du PSG. Il y avait le sac à dos, le t-shirt, le pins PSG, le jogging. Je les ai toujours. Hein. Enfin, j'ai toujours le... Si, je vois encore le t-shirt... Il doit être un peu déformé. Par contre, le jogging, il est quasiment en état parfait parce que je crois que j'ai dû le mettre 3 fois dans ma vie, dont une fois au NAS. Donc, il est en état parfait. Je le garde précieusement parce que bah, il y a le gros logo Commodore dessus. Hein. C'était à l'époque, Commodore s'occupait de gérer. Je vérifie juste que j'enregistre toujours. Oui, c'est bon. J'en suis déjà à 9 minutes, j'espère que ça va pas être trop long, j'essaie de me dépêcher. Batman, hein, tu couperas le mais j'en fais beaucoup. Et encore, j'ai pris plein de notes pour essayer d'aller plus vite possible. D'ailleurs, j'en étais où? Voilà, puis je m'étais dit, allez, cette fois je pirate pas, j'essaye maintenant d'être un peu plus sérieux. Et puis il y a un club informatique qui ouvre dans le collège. Moi j'étais passé au lycée, mais le collège où j'étais juste avant vient d'ouvrir un club informatique ouvert à tous. et il recherchait du monde, alors pour faire partie du club, mais également pour donner des cours. Moi, en basique, je me débrouillais pas mal. J'avais fait quand même pas mal de petits jeux, de petits j'étais assez content de moi. Je touchais que le basique, hein, mais je me débrouillais pas trop mal. Je me disais, tiens, pourquoi pas. Et puis, finalement, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait déjà un prof adulte. Effectivement, il m'a quand même appris des choses, mais souvent, je me suis aperçu que j'avais à peu près le même niveau que lui, sauf qu'il m'a fait comprendre la fonction data. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la fonction data, ça a été un véritable miracle pour moi, parce que ça m'a ouvert des portes, mais immenses. J'ai commencé vraiment à faire des trucs intéressants en basique. Et son fils venait d'avoir un Amiga, et lui, il piratait déjà à mort. Et bon, ça a commencé, il a commencé à me passer des disquettes, je me rappelle, de Lotus 2 et de Deluxe Paint. Moi, à l'époque, j'avais juste acheté neuf. Hein. J'avais donc Kickoff qui était livré avec mon Amiga 500. J'avais acheté Final Fight et Shadow Dancer parce que je les avais adorés en arcade. Maintenant, je sais que Final Fight est décrié en disant que c'est pourri, mais à l'époque, moi, je m'éclatais dessus parce que je trouvais arcade perfect. Parce que, par rapport à l'Amstrad, je passais un niveau immense. C'est tout. Ah si, Lemmings, on m'avait offert Lemmings et Another World. C'était ma tante qui m'avait offert Another World et j'avais. Ah, c'était un. Parce qu'elle l'avait offert en même temps à son fils. C'était donc son fils qui avait le fameux Atari ST où j'avais découvert tous les autres jeux Atari. Et elle m'avait offert aussi ce jeu et voilà, ça avait été un truc. Énorme quoi. Et là, Lotus 2 et Deluxe Pen que je reçois, la claque. Lotus 2, c'était une véritable claque. Je sortais déjà de chez JSQ sur Amstrad que je trouvais génial, mais là, enfin, on passait mais largement au-dessus quoi. On pourrait dire à la limite que oui, mais t'as pas vu ce qu'il y avait en arcade. Oui, mais en fait, à l'époque, j'allais dans les salles d'arcade de loin. J'entrais pas parce que c'était enfumé et mes parents n'aimaient pas trop que j'aille dans ce genre de lieu parce que c'est à l'époque c'était considéré comme dangereux. Puis Deluxe Paint, c'était faramineux. Je sortais de OCPR Studio sur Amstrad que j'adorais. Mais là, on passait à un niveau au-dessus. Enfin, c'était géant quoi. Voilà. Puis après, j'ai découvert plein de jeux. Je vais pas faire tout le truc, mais un autre truc que j'avais adoré, c'est quand deux points que j'ai adoré. C'est peut-être un an après ou deux ans après. Pardon. Je m'étais. J'avais un petit peu d'argent de poche et j'étais passé à 1 méga. Parce que j'avais 512K de mémoire, je suis passé à 1 méga. Donc ça devait être en 93. Courant 93. Et là, j'ai eu ma claque, une nouvelle claque, quand j'ai découvert l'intro de Birds of Prey, un simulateur de vol. Je crois qu'on pouvait y jouer quand on avait que 512K, mais on n'avait pas l'intro. Et là, j'ai balancé l'intro et Birds of Prey, l'intro, moi, elle m'avait sidéré. Mais à chaque fois, c'est vrai que j'utilise un peu ces mêmes termes, mais c'est vrai que j'avais vraiment ces impressions de prendre une claque visuelle, une claque sonore. Tous ces trucs-là, quoi. après, l'Amiga 1200 est sorti, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que ça valait cher. Puis, je m'éclatais vraiment sur mon Amiga 500. Par contre, j'ai acheté l'Amiga CD32. Alors, pas tout de suite, j'ai peut-être attendu un an après sa sortie. Je l'ai acheté d'occasion. Je crois que j'avais acheté 2400 francs avec le jeu Microcosme. Et ici, c'était dans un magasin d'occasion. Et j'avais acheté pour le prix d'une CD32 normale, donc 2490, j'avais acheté la CD32, Microcosme, il y avait Diggers et Oscar qui étaient avec, hein, c'est normal. Et j'avais en bundle une Lynx avec je ne sais plus quel jeu que j'avais offert à ma nièce. C'était un cadeau pour ma nièce parce que j'avais envie d'offrir un cadeau à ma nièce, me faites pas chier. J'avais déjà 17 ans, hein. Bon, c'était un peu normal. On commence à faire un petit peu de cadeaux, puis voilà. Après 96, j'ai acheté mon Amiga 1200. Alors, mon Amiga 1200, je l'ai acheté, j'étais en Angleterre, je faisais mes études là-bas. Au début, je suis venu avec mon Amiga 500 et ma CD32, on faisait des Worms à tire-larigot, je sais pas comment on faisait, comment j'ai fait pour avoir ma licence d'ailleurs, parce qu'on faisait des parties à 16 joueurs, je sais pas si vous vous rendez compte. On était peut-être 4 Français et tous les autres c'était des Anglais, dans ma piole, et en fait, un joueur, un Worms. Vous voyez un peu le truc. Et l'année d'après, j'ai acheté mon Amiga 1200 de base. Je l'ai acheté sur place en Angleterre. Et je l'ai tout de suite transformé avec un disque dur de 2,5 Go. C'était énorme à l'époque. J'étais passé, je crois que j'avais à l'époque, j'avais 2 mégas de RAM. Ouais, 2 mégas de RAM de base. Je crois que c'était un stock, un 1200 de stock de base. Et moi, je rajoutais... J'étais passé à 6 mégas et j'arrivais du coup à faire tourner Doom. C'est impressionnant. Après j'ai continué dessus. Je suis passé ensuite au niveau machine Pegasus 2 en 2004. Pour passer sur MorphOS, et j'ai arrêté d'utiliser l'Amiga comme machine principale en 2013 parce que pour le boulot ça commençait à être un peu limite. Pour le boulot 2013 pour faire du traitement d'image, faire du traitement vidéo, ça commençait à être vraiment difficile. Donc malheureusement mon Pegasus, j'étais passé sur un G4, j'ai toujours d'ailleurs ici sous mon bureau un Mac G4 dual, je sais plus comment on dit, et bon, c'était devenu trop limite, en plus il faisait un bruit énorme, enfin, c'était inutilisable, donc je suis passé malheureusement à Linux, et j'attends avec hâte une machine x86 ou ARM encore mieux, sous MorphOS pour m'y remettre, alors peut-être pas en machine principale, mais en tout cas un maximum. Si je voulais aussi rajouter que en 2002, j'avais découvert les bouffes avec Glemps, qui avait fait une chez lui. Il avait fait ça sur Amiga Impact. Il avait invité les Amiga Impactiens chez lui pour une bouffe. Puis on avait été au resto après. Et là, j'avais découvert que j'étais pas le seul Amigaïste encore en 2002. Et pour moi, c'était fou aussi ça, parce que j'ai l'impression d'être le dernier Amigaïste au monde. À part sur Amiga Impact. Coucou à Yann qui m'a fait découvrir Amiga Impact en 98 quand je bossais chez Guillemot Ubisoft. Je discutais et puis voilà, Amigaïste, hein, donc on était deux. puis du coup, j'avais créé ma petite bouffe aussi la même année, je crois, à Redon. Il y avait eu peut-être 5-6 personnes qui étaient venues, dont Fab One, qui était venu avec un Pegasus. C'est là que j'avais découvert MorphOS et on arrivait à faire tourner 4 vidéos en même temps sans ralentir avec un Pegasus 1. C'était sensationnel. Et c'est suite à ça d'ailleurs que l'année d'après j'avais acheté mon Pegasus 2. Je crois que ça doit être ça. Non, c'est en 2004 que j'avais acheté mon Pegasus 2. Je voulais lancer aussi mon propre événement un peu plus gros. Moi, quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de faire toujours un truc très grand. Et du coup, je voulais lancer le Salon International de l'Informatique Alternative à Sainte-Marie. J'avais lancé ce projet en 2002. Je voulais le faire vers 2003-2004. Et alors, j'avais été loin, j'avais commencé à voir pour financer. J'avais été voir la mairie de Redon, la mairie de Sainte-Marie, parce que c'est là où j'habitais, donc c'est une petite bourgade à côté de Redon. Et là, j'avais réussi, gratuitement, me filait trois salles. Une grande salle des fêtes pour faire l'événement, plus d'autres petites salles pour des petits événements à côté, quoi. Je sais pas, pour une remise des prix, j'en sais rien, un truc pour faire une démo partie. Ah non, mais je voyais très grand. J'essaie de... Puis bon, le problème, c'est que je me suis séparé à ce moment-là de la personne avec qui j'étais, donc du coup, c'est tombé à l'eau. Et puis, beaucoup plus tard, en 2006, j'ai voulu relancer un truc. Je fais un petit événement pour tester. J'ai lancé l'Amiga Plage. À l'époque, j'étais à Saint-Brévin. J'avais lancé le truc. J'étais parti un peu au hasard. J'avais loué une partie d'un camping sur la plage, qui donnait sur la plage de Saint-Brévin. L'endroit était sympa. Puis j'avais peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes qui étaient venues. Mais l'ensemble de tous mes frais était bien au-dessus de... j'avais mal calculé, je m'étais très mal débrouillé. J'en avais pour beaucoup de ma poche, et donc du coup, ça m'avait freiné sur le moment. Jusqu'en 2016, où j'ai relancé quelque chose. Donc c'était l'Amiga Camping. En gros, c'est je reprenais le principe, mais sauf que je faisais chez moi, donc pas de salle. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, depuis 2016, enfin j'ai fait édition 2016, 2017, 2018, 2019. Il n'y en a pas eu en 2020. Je ne suis pas sûr d'en faire en 2021, enfin vous comprenez pourquoi. 2022, j'espère en tout cas. 2021, c'est pas encore annulé, mais j'en sais rien pour l'instant. J'ai peur que ça soit pas encore possible. En gros, je réunis une trentaine de personnes, je limite à 30. Peut-être, je m'étais dit que le prochain, j'irai peut-être jusqu'à 50 parce que je libérerai une autre partie de ma grange. C'est qu'en fait, j'ai une grande grange du côté de La Roche-sur-Yon en Vendée. J'invite les gens à mettre leurs machines dans ma grange. Je fais venir des tables, des bancs et tout ça. C'est pas l'équivalent du NAS ou de l'alchimie, hein, loin de là. En tout, il y a peut-être il y a 80 mètres carrés ou peut-être un peu plus en mettant les deux morceaux de grange. Mais je peux accueillir voilà une trentaine de personnes sans problème et une cinquantaine si j'ouvre l'autre partie de la grange. Et par contre, j'ai 600 mètres carrés de jardin, donc du coup, il y a de quoi planter des tentes, mettre des grandes tables. En plus, là, maintenant, j'ai acheté un grand barnum de 75 mètres carrés. Parce que jusque-là, en fait, j'avais un petit barnum qu'on me prêtait qui devait faire, je crois, 12 mètres carrés. C'était bien pour les repas. Mais quand il pleut, bon, bah, du coup, ça limite. Donc là, maintenant, là, j'ai investi dans un barnum de 75 mètres carrés, je crois, c'est ça. Hein. Et du coup, là, maintenant, on peut vraiment abriter pour les repas, faire des petits trucs. Donc maintenant, voilà, pour le prochain Amiga Camping, pardon, j'ai encore l'autre en tête. Le prochain Amiga Camping, je vais essayer d'organiser un truc un peu plus gros, un peu plus important. Voilà, alors c'est vrai que je commençais un petit peu à avoir l'idée de voir un peu plus grand du coup, parce que j'en ai parlé, maintenant en plus je suis élu de la commune et j'en ai un petit peu parlé et ça intéresse, il y en a qui se disent tiens on pourrait peut-être faire un événement autour de ça, mais c'est vrai que j'ai posé la question aux Amiga Campeurs, en fait j'ai l'impression que les gens sont pas chauds, ce que je peux comprendre. Ils ont peur que du coup ça perde un peu le côté familial de ce que je peux comprendre. Donc je pense que pour l'instant en tout cas, pour les prochaines années, je vais rester sur ce format-là. On verra après, quand je serai vieux, que je serai à la retraite et que j'aurai plus de temps pour faire un truc un peu plus gros ou un peu différent. J'en sais rien, je sais pas. Pour l'instant, mais je pense que voilà, pour les prochaines années, on va rester sur ce format-là. À part que je commence à réfléchir sur des manières d'améliorer le concept. Donc en général ça se passe le dernier week-end d'août. Ça peut changer parce que le problème c'est que du coup les enfants peuvent pas trop venir parce que y a souvent la rentrée après. Surtout que le but c'est que ce soit familial, les gens viennent en famille pour que les geeks geeks fassent des activités geeks s'ils veulent. Et que les autres fassent d'autres activités. Je propose d'autres activités à côté. Bien sûr, c'est l'aspect camping, donc c'est les brochettes, les soirs autour d'un feu de camp. Il y a tout le côté un peu festif du camping que j'essaie de refaire, même cinéma plein air, voilà. Bon, je pense que ceux qui viennent, en tout cas, sont plutôt contents, parce que en gros, en général, ceux qui viennent, ils reviennent après. Il y en a très peu que j'ai vu une seule année. Ça avait même intéressé une année. Il y avait France 3 qui était venu faire un reportage. D'ailleurs, si vous faites sur YouTube Amiga Camping reportage France 3, ou simplement sur ma page YouTube, vous verrez ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire également, parce que ça commence à faire pas mal déjà, hein. Ah ben si, parce que là c'est un lien aussi avec Amiga Impact, c'est que ben en février 2007, je me suis intéressé à la robotique, un peu par hasard, et c'est en février, ouais, 2007, c'est ça, ouais. Et ben, je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire un blog, depuis le temps que je voulais lancer un blog, je sais pas trop quoi raconter. Et ben voilà, je lance un blog et je l'appelle Robot Impact. Forcément, c'est un clin d'œil à Amiga Impact, qui était mon site favori, toujours d'ailleurs, même si j'y vais de moins en moins, parce que c'est vrai que mon activité Amiga s'est un petit peu calmée, parce que j'ai tellement d'autres activités aussi à côté, j'arrête plus. Faut que je me calme d'ailleurs. Mais en même temps, c'est un peu ma drogue de faire plein de trucs. C'était à l'origine, c'était j'essayais de refaire un peu le concept d'Amiga Impact, mais autour du monde du robot. Et puis ce blog a pris une ampleur que j'aurais pas cru. Moi, je pensais faire ça un peu, voilà, pour les copains. Si j'avais, 30 personnes qui se connectaient par jour, j'étais content, quoi, au début. Sauf que au bout de 2 semaines, même pas. Une semaine, j'avais déjà plus de 30 visites par jour. Après, je suis passé à 300, 3000, et puis même, je crois même qu'à un moment donné, ça a monté jusqu'à 10 000 personnes par jour. Aujourd'hui, c'est peut-être rien, hein, mais moi, à l'époque, ça me paraissait gigantesque. Et tellement gigantesque que bah, 2 ans après, c'est un éditeur qui m'a appelé. Je suis tombé sur votre blog, je l'aime bien. Vous ne voulez pas en faire un magazine papier ? J'ai fait « Wouhou !» J'ai tout laissé tomber. Tout ce que je faisais, et j'ai lancé le magazine Planète Robot, donc il m'a appelé en août 2009, en novembre 2009, sortait le numéro 1, j'étais pas même journaliste, hein, j'étais dans l'informatique, je travaillais au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, et puis j'avais monté une petite boutique sur Nantes aussi de robots, parce que justement je sentais qu'il y avait un petit truc à faire là-dessus, et j'ai tout laissé tomber. Et j'ai lancé donc ce magazine. Donc je connaissais pas le métier, je connaissais pas le métier de journaliste, je connaissais pas le métier de rédacteur en chef, je connaissais rien du tout. Et mais c'est pas grave, c'était un défi. Je me suis lancé le défi et puis c'est parti. Et puis finalement, bah, ça a tellement bien marché que bah, on est en 2021, donc ça fait 12 ans bientôt. Et on est toujours là. Planète Robot est toujours là. Je suis toujours rédacteur en chef du magazine. Le magazine maintenant il est en vente dans tous les pays francophones. Alors il n'y a plus la notion de Amiga Impact, hein, c'est plus Robot Impact parce que c'est Planète Robot. Simplement parce que mon éditeur avait déposé le nom Planète Robot et donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Sinon moi j'aurais appelé Robot Impact. Hein, mais par contre, pour les quelques lecteurs amigaïstes qui feuillettent des Planètes Robots, j'essaye de glisser dans chaque numéro au moins un clin d'œil à l'Amiga, toujours. Si c'est pas l'Amiga, c'est au moins Commodore 64, l'Amstrad CPC, il y a toujours, j'essaye. Enfin, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, hein, quand même, j'avoue que... essayer de trouver une actualité où je peux glisser un clin d'œil à l'Amiga, ça devient difficile. Mais en cherchant bien, en feuilletant, vous pouvez trouver une petite Boeing Ball, un petit damier, un petit Amiga, ou j'en sais rien. J'essaye toujours d'avoir un petit clin d'œil. Ouais, puis cette aventure est assez rigolote parce qu'elle m'a fait découvrir des personnes du jeu vidéo qui sont passées à la robotique. Hein. Il y a eu un gros mouvement, je dirais, vers 2006-2007. Puisque mon éditeur n'est simplement que Philippe Seban, qui était l'ancien patron de Loriciel. Hein, je pense que Loriciel, ça vous parle. Et c'est l'ancien patron de Loriciel, Philippe Seban, qui a monté Planète Robot avec moi. Voilà, et qui a arrêté Planète Robot. Il a revendu Planète Robot il y a 2 ans. Donc maintenant, je travaille avec Lexing, qui est un cabinet d'avocats. Alors pourquoi un cabinet d'avocats? Ça, je pourrais vous raconter, mais je pense que ça commence à être déjà très long. J'ai également rencontré forcément plusieurs fois, il y a 2 semaines, Bruno Bonnel, qui est donc l'ancien patron d'Infogrames Atari. Maintenant, c'est vrai que C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui ça m'est arrivé plusieurs fois de manger avec lui. En fait, au hasard de mes rencontres, c'est quelqu'un que je trouve plutôt sympathique. Même si je sais que derrière, c'est un peu compliqué avec lui sur l'histoire en fait autour d'Infogrames. J'ai également été patron de Cyril Drevet, pour ceux qui connaissent, alias Crevette, un journaliste de jeux vidéo. Parce qu'en fait, je l'ai embauché dans l'équipe. Il avait demandé à rentrer dans l'équipe de Planète Robot. Il présentait deux rubriques, donc la rubrique jeux vidéo forcément. La rubrique jeux vidéo autour de fallait qu'il y ait la robotique dans la thématique, et également tout ce qui était voiture autonome et tout ça, parce que il travaille maintenant pour M6 pour l'émission Turbo. Voilà, sinon pour histoire de finir, parce que là on doit être à peu près à 2 heures, hein, c'est ça, à 30 minutes, oh là là. T'as le droit de couper, hein, t'as le droit de faire que 3 minutes, Batman, hein, y a pas de souci, je ne t'en voudrais pas. Pour finir, maintenant, toujours Planète Robot, Amiga Camping, venez-y en 2021-2022. J'ai relancé ma chaîne YouTube depuis novembre. Vous recherchez Frédéric Boidron ou Scritch, je crois que c'est Frédéric Boidron, mais vous cherchez surtout, ça va être plus facile, le nom de ma nouvelle chronique hebdomadaire qui s'appelle En route vers le futur. Donc je devrais être en train de l'écrire en ce moment, là je suis en retard, parce que la prochaine chronique de lundi, j'ai pas encore commencé à l'écrire, il faut que je l'écrive, que je la tourne et que je la monte, et on est vendredi soir, bientôt minuit. Et après je me fais engueuler par ma femme parce que je suis pas avec elle le week-end. Ça c'est à cause de vous, hein. Ah, bon bref. Donc c'est En route vers le futur. Tous les lundis à 9h, je lance ma nouvelle vidéo. Donc c'est une chronique sur de 10 minutes, un quart d'heure, sur la vie quotidienne en 2040. En fait, j'essaye d'aller dans ce domaine, mais plutôt que de présenter telle qu'elle sera en 2040, c'est plutôt aujourd'hui les actualités qui vont dans ce sens. Et j'essaye toujours d'avoir un thème un peu plus complet, par exemple sur l'informatique quantique, sur le tourisme spatial, sur un truc que je vais développer un peu, et à côté de ça un peu d'actualité sur les nouvelles technologies qui arrivent. Alors je parle pas trop de téléphone, les nouvelles technologies qu'on voit en général sur les blogs, les nouvelles télé, les nouveaux téléphones, pour moi c'est déjà du old. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste on rajoute 3 icônes en plus, et donc je vois pas l'intérêt. Donc à chaque fois, j'essaye d'aller vraiment sur les trucs innovants, donc forcément la robotique, hein, mais la réalité virtuelle, les voitures volantes qu'on attend depuis des années, mais qui arrivent maintenant, le tourisme spatial, j'ai déjà dit, l'hyperloop, tous ces thèmes-là. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Comme je disais, Batman, t'as le droit de couper. Il y a pas de souci. Tu fais juste un montage de 2 minutes. Je ne t'en voudrais pas. Et tu peux même me dire de te refaire juste un 2 minutes. Je ne t'en voudrais pas. Et je parlerai juste de Amiga Camping, par exemple. Je me disais que, en fait, si j'ai fait un truc aussi long, j'espérais pas faire aussi long. J'espérais faire en tout 8 minutes peut-être. C'est que je me suis dit, c'est que moi j'ai envie d'entendre ce que les autres vont dire aussi. J'aime bien l'historique des gens. J'aime bien voir comment ils ont découvert l'Amiga, comment ils ont l'Amiga ou l'informatique en général. J'avoue que j'aime bien ces trucs-là. Mais je sais que je suis très lent. Écoutez, à bientôt à l'Amiga Camping, et puis au NAS, à l'Alchimie. Ah, puis j'ai même pas parlé du NAS, de l'alchimie, des Nifos Bouffe. Tant pis, je suis désolé. Coucou à toutes les équipes qui sont derrière tout ça. 33 minutes. Oh. Allez, ciao, bye.
Alors, pour terminer ce podcast 100.3, et comme à mon habitude, je vais vous redonner la liste des intervenants et vous dire ce qu'ils avaient voulu comme musique sonore, comme tapis sonore. Donc je commence avec Ace, dont je vous ai déjà parlé, avec la musique Echo Love, donc qui est tirée de Dune, qu'il avait refaite lui-même. Ensuite, on a notre ami Nifeu, qui a voulu avoir une musique de la démo Nine Fingers en fond. Donc là, de mémoire, c'est un remix qui est disponible sur Amiga Remix de Sidewave. Ensuite, nous avions Ulrich qui avait choisi la musique de Speedball. Enfin, c'était Papiosaur, mais de mémoire, Papiosaur, c'était la musique de la démo Enigma de Phenomena. Ensuite, Screech. Alors, Screech, il a beaucoup parlé et il m'avait donné que le module Electric Funk de Moby. Alors, vous avez écouté Electric Funk de Moby pendant quelques minutes. Hein. Vous l'avez dû l'écouter, attendez, je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fois. Et enfin, pour terminer, je me suis fait un petit plaisir parce que je suis vraiment tombé en amour des modules faits par Alex Menchi. Donc du coup, je vous ai mis, pour terminer ce podcast, que vous allez donc pouvoir écouter, le module fait par Alex qui s'appelle Computers Killed Rock'n'Roll. Eh bien, je vous laisse écouter Computers Killed Rock'n'Roll. La semaine prochaine, pour le dernier épisode du podcast, vous pourrez écouter... Alors, pour l'instant, je vais peut-être jouer un peu le suspense. Il y en a au moins trois qui sont sûrs. Amiga Kid, Roderick et Touko. Et j'espère peut-être avoir d'autres intervenants, notamment un ou deux qui se font un petit peu désirer. Et un troisième qui m'a promis de me l'envoyer prochainement. Donc voilà, et si vous voulez participer vous aussi, n'hésitez pas, et je vous laisse, on va dire, jusqu'à vendredi soir pour m'envoyer votre fichier .mp3, m4a, ma4 ou je sais pas quoi, acc, enfin ce que vous voulez, donc sur batman, batman@gmail.com si vous voulez intégrer le dernier podcast, le 100.4. Mais écoutez, bonne écoute du module Computers Killed Rock'n'Roll de Alex Menchi. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Plein de bisous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous.